Bonsoir à tous, chers auditeurs, vous êtes bien sur le 91.1 à l'écoute de La Lorgnette, le magazine d'actualité de Studio ZEF. Ce soir, nous parlons de l'histoire d'un petit chromosome en plus. C'est ce chromosome en plus qui donne cette singularité aux personnes atteintes de trisomie 21. Le 21 mars dernier, et comme tous les 21 mars, avait lieu la journée mondiale de la trisomie 21. La ville de Blois s'était mobilisée en proposant un challenge de chaussettes dépareillées. Tous les habitants et habitantes étaient invités, et le sont toujours, à accrocher leurs plus belles chaussettes dépareillées dans les jardins de l'évêché. L'objectif étant d'afficher un message pour la diversité et la tolérance envers les personnes souffrant de discrimination. Auriane était présente et nous nous sommes rencontrés à cet endroit-là, comme beaucoup de ses amis également de Blois-Vienne. Auriane, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir Annick, tu es la maman d'Auriane.
Oui, c'est ça. Bonsoir les auditeurs.
Alors Auriane, tu vas nous raconter ton quotidien, ton histoire. Alors j'aimerais commencer peut-être par, est-ce que tu peux te présenter, où est-ce que tu habites?
Je m'appelle Auriane Marquer, j'ai 32 ans. Je travaille à l'aide de la chaussée Saint-Victor tous les jours. Je vis dans un appartement avec des amis. J'aime faire du sport, la cross-gym, la fitness, chanter et danser. J'aime regarder des films. Je sais faire le ménage, manger et m'occuper de moi toute seule. J'ai un handicap, je le respecte, tout le monde. Je veux être respectée. J'aimerais avoir un appartement pour moi toute seule. J'aimerais bien envie de détacher mes parents. J'aimerais plus autonome. Avec un par mois chez mes parents. Et un jour, peut-être, je vais me marier.
Merci pour cette belle présentation. Tu l'avais écrit pour préparer cette émission, c'est ça?
Oui.
Super. Alors, tu nous as dit que tu habitais dans un foyer à Blois-Vienne,
oui.
C'est ça, qui est géré par l'ADAPI,
oui.
41. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'ADAPI et qu'est-ce qu'elle permet?
Alors, l'ADAPI, c'est une association qui regroupe les parents d'enfants handicapés. ADAPI, c'est au niveau départemental. Voilà, chaque département, en principe, a une ADAPI. Voilà. Et au niveau national, c'est regroupé par l'UNAPI.
D'accord.
Voilà. Et bon, l'ADAPI, c'est une des associations pour enfants handicapés. Il en existe d'autres. Hein. De mémoire, je me souviens de GES 21, mais il doit y en avoir d'autres encore également, mais je ne me souviens plus des noms. Voilà.
C'est vrai que l'ADAPI, c'est souvent celle à laquelle on pense.
C'est la plus connue, en fait. Voilà. Et c'est celle qui regroupe le plus de monde également et qui sait se faire reconnaître au niveau national, quoi, surtout. Mmh. Voilà.
Et Auriane, depuis combien de temps tu habites à Blois-Vienne?
Je ne sais pas.
Il me semble qu'avant tu étais à Salbris.
Oui.
C'est ça, d'accord. Et donc tu vis en colocation?
Oui.
Avec combien de personnes?
Dans ton petit appartement?
13.
13, waouh.
Et je ne sais pas très bien avec les autres locataires.
D'accord.
En fait, ils sont 3 ou 4 par petite section. Ils ont chacun leur chambre. Ils ont en commun un salon séjour, une cuisine et puis les sanitaires, salle de bain, etc. Voilà.
D'accord.
Mais ce sont des petits groupes comme ça, c'est très bien organisé, c'est très bien fait et c'est agréable pour eux, je pense. Voilà.
Mm-hmm. Pour eux, mais pas moi.
T'aimerais avoir plus d'intimité?
Oui.
D'accord.
Ah, bah, Auriane aurait souhaité être beaucoup plus autonome et avoir son petit appartement à elle, etc. Donc, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Donc,
d'accord.
Voilà.
Et alors, à quel âge est-ce que tu as quitté tes parents et tu as eu déjà plus d'autonomie? Là, tu as 33 ans, c'est ça?
32.
32. Bon, là, je vieillis.
J'aimerais bien m'attacher mes parents. Mais elles ne veulent pas.
Ah, ben c'est un petit peu compliqué, disons. Elle est en foyer depuis l'âge de ses 20 ans, en fait, parce que c'est le cursus normal, en fait, hein, pour les personnes handicapées. Elles sont. On essaye au départ de les mettre en inclusion dans les écoles ordinaires, quand c'est possible. Ensuite, si ce n'est pas possible, ils intègrent souvent des IME, les établissements médico-éducatifs.
C'est un stage que je fais.
Et après, à l'âge de 20 ans, ils rentrent dans le monde du travail comme tout adulte ordinaire. Donc là, à ce moment-là, ils intègrent ce qu'on appelle ESAT, anciennement CAT, les centres d'aide par le travail.
Qui sont gérés par l'ADAPI également?
Sincèrement, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises.
Et alors, à l'ESAT, Oriane, qu'est-ce que tu y fais?
Titulaire, les boîtes à gâteaux, du carrelage, papier cuisson.
Donc, c'est toi qui prépares...
Oui.
D'accord, oui. Et quels sont tes horaires de travail?
8h40.
Et tu y vas tous les jours?
Oui.
Donc, d'accord. Okay. Mm-hmm. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, le fait d'avoir une activité professionnelle?
Oui, bien sûr. Il y a des loisirs.
Oui. Mm-hmm.
Disons que ça lui permet d'avoir un petit revenu à elle. Et puis d'avoir ses petites occupations et pouvoir s'offrir ce dont elle a envie aussi. Voilà. De la musique, des CD, des DVD, des choses comme ça, quoi. Des choses qui leur plaisent, en fait. Et quelquefois des sorties aussi, justement avec les éducateurs, souvent. Oriane est souvent sortie voir des comédies musicales. Elle adore ça, par exemple. Voilà.
Oui, et quelle est la dernière que tu as vue ou une comédie musicale que tu as beaucoup aimée?
Adam et Ève.
Ah, ok. Et c'était à Blois ou vous aviez...
Oui.
D'accord.
Non, c'est souvent à Orléans, je crois.
D'accord. Et en parlant de comédie musicale, en préparant cette émission, Oriane, tu m'as parlé d'une musique... que tu aimes beaucoup.
Oui.
Alors, on va l'écouter. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? De quel film est cette musique?
C'est Marchand de tissu.
Du film Cendrillon?
Film Cendrillon.
Eh bien, on l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après.
Or two and give much respect due to the man that's made a difference in my world. And although most men are hoes, he flows on the down low, cause I never heard about him with another girl. But I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect, I give props to those who deserve it, and believe me y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past. I finally found the body that can make me laugh. You so crazy. I think I wanna have your baby.
What a man, what a man, what a man, what a mighty good man.
Yes, he is.
What a man.
Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off.
behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Oh, back and forth through my mind like a minuet. And the message coming from my eyes says, leave it alone.
La 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 la.
Coming back my way, I'm gonna serve it to you.
La, what a man, la, what a man, what a mighty man. La, what a man, what a man, what a mighty man.
That ain't what you want to hear, but that's what I'll do. La,
what a man, what a man, what a mighty man. La, what a man, what a man, what a man, what a mighty man.
Et vous êtes toujours sur le 91.1 dans la lorgnette. Ce soir, on reçoit Oriane et sa maman Annick. Oriane, on s'est rencontrés au challenge des chaussettes dépareillées qui avait lieu jusqu'à lundi soir dans les jardins de l'évêché. Est-ce que, Oriane, tu peux nous raconter qu'est-ce qu'était ce projet de chaussettes dépareillées?
C'est des chaussettes dépareillées, c'est...
Différentes. Oui.
Et pour le soutenir des gens.
Et t'avais apporté les tiennes?
Oui.
Et donc, elles sont encore visibles au jardin de l'évêché. Si des blésois et des blésoises nous entendent, vous pouvez encore les voir au jardin de l'évêché. Alors, Oriane, tu es accueillie dans un foyer de l'ADAPI. L'ADAPI 41, on le rappelle, son siège social est à Vineuil. Elle a été créée en 1961 à Blois pour apporter une solution aux enfants atteints de trisomie 21. Et en Loire-et-Cher, actuellement, il me semble qu'il y a une quinzaine d'établissements. L'ADAPI représente une quinzaine d'établissements. Est-ce que pour vous, Annick, ça a été un soutien et une structure
Oui, l'ADAPI, c'est un soutien, effectivement. Hein. L'ADAPI, elle est là pour aider et soutenir les familles. Elle est là aussi pour maintenir des liens de solidarité. Elle est là aussi pour rechercher des solutions pour tous les handicaps. Il n'y a pas uniquement la trisomie 21, hein. Il y a d'autres handicaps aussi. Et puis, surtout, elle est là aussi pour sensibiliser l'opinion. Voilà. C'est vrai que quand on a un enfant handicapé, on a besoin d'être soutenu, effectivement. Heureusement que les associations sont là. Hein. Et lorsque le handicap est détecté, il faut se mettre en relation avec la MDPH. Voilà, parce que la MDPH, c'est elle qui fait, qui organise, qui instruit les dossiers pour pouvoir avoir une prise en charge. Mmh. C'est important aussi pour les familles, ça, d'être aidé financièrement aussi. On en a vraiment besoin. Voilà, et l'AMDPH, donc c'est tout un groupement d'intérêt public hein, qui associe le Conseil général, des représentants d'organismes aussi locaux, comme l'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale, et puis les associations de représentants des parents, personnes aussi. Voilà. Il faut dire que le handicap actuellement reste encore une cause d'exclusion, hein, surtout en termes d'éducation, à l'accès aux infrastructures aussi pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Souvent, on ne passe pas suffisamment à eux. L'intégration professionnelle aussi. C'est important pour toutes ces personnes handicapées parce qu'elles ont besoin d'acceptation sociale et surtout une ouverture vers l'extérieur, ce que pratiquent souvent les ESAT justement dans le monde du travail parce qu'ils vont chercher les contrats auprès des entreprises et souvent ils proposent, certaines entreprises proposent des petits ateliers à l'intérieur de ces entreprises, donc ça c'est vraiment une ouverture pour les personnes handicapées. Vraiment, ça, c'est une bonne chose.
Est-ce que, Oriane, les personnes avec qui tu travailles, ce sont les mêmes personnes avec qui tu es en colocation ?
On a d'autres personnes.
D'accord. Donc tu rencontres d'autres gens aussi à travers ton travail ?
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui te plaît ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu as comme loisir ? Tu nous as parlé que tu aimais beaucoup la colocation pour les loisirs.
Oui.
Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de sorties que tu as faites ? Est-ce que, par exemple, du cinéma ?
Le cinéma, le sport.
Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport ?
L'aquagym. La fitness.
Oui.
Le chant et la danse.
La piscine aussi.
Et piscine.
Waouh, ok. Mm-hmm. Et le chant, tu en fais...
J'ai fait dans ma chambre, il ne veut pas entendre.
C'est tes colocataires qui ne veulent pas entendre.
Oui. Je fais trop de bruit.
Oui, c'est vrai que quand elle était plus jeune, elle chantait dans une chorale.
D'accord.
Elle a toujours chanté dans une chorale depuis toute petite.
Mmh. Chorale, j'adore.
Ouais, elle a aimé ça. Ouais.
Oui. Super. Annick, tu parlais de la prise en charge. Est-ce que tu as l'impression que les structures et les possibilités ont évolué au fil du temps ?
Je ne veux pas dire qu'elles n'ont pas évolué, mais disons que ça évolue très, très, très doucement quand même de ce côté-là, je trouve. C'est vrai qu'il y a eu des progrès de fait, hein, quand même. Faut dire ce qu'il y a quand même. Mais je pense que c'est pas suffisant. On en demande toujours plus, de toute façon, on est tous pareils.
Voilà. Nous sommes tous pas pareils, en fait.
Nous sommes tous pas pareils, oui, exactement. Oui. Et c'est ça que permettait de montrer ce projet des chaussettes dépareillées, et puis aussi cette émission ce soir, qu'on est tous pas pareils et encore heureux.
Oui.
Est-ce que toi, Oriane, le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, les idées reçues que les gens peuvent avoir sur la trisomie 21 ? Qu'est-ce que tu as l'impression que pensent la plupart des gens sur la trisomie 21 ?
Il y a certaines personnes qui respectent. On a d'autres qui ne respectent pas.
C'est difficile, hein?
C'est difficile, en fait.
Mm-hmm. Oui. Et le fait de vivre avec d'autres personnes porteuses de handicap, c'est plutôt une source de...
Une source de vie, en fait.
Mais en même temps, par exemple, ton travail, tu t'ouvres à l'extérieur et ça peut permettre peut-être de sensibiliser les gens au fait que...
J'ai demandé à mon projet de travailler dans une banque.
Ah, d'accord, oui.
Et c'était accepté.
Donc, tu es suivie par... alors, est-ce que c'est tes éducateurs ou éducatrices qui t'aident à avoir des projets comme ceux-là ?
Oui.
Oui, en fait, tous les ans, il y a un projet qui est fait au niveau de l'ESAT, au niveau du travail. Hein, en fonction des capacités et des possibilités de travail de chacun. Voilà. Et c'est vrai qu'Oriane aime bien travailler à l'extérieur. Voilà. Donc, elle a... Et il y a je trouve pas le mot. De temps en temps,
des mises en situation
ou des apports de travail à l'extérieur. Mais c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Voilà, comme cette histoire de travail dans une banque, c'est je trouve pas le mot, hein, je cherche depuis tout à l'heure. C'est de temps en temps, c'est une fois l'année, c'est pas, voilà.
D'accord.
C'est une expérience, oui. Mm-hmm. Ça peut être une très bonne expérience, d'ailleurs.
Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans le milieu de la banque ?
c'est les fiches de paye et les feuilles.
C'est toi qui gères l'argent.
Oui.
Est-ce que vous, Annick, dans comment s'est passé, le, si je peux me permettre de poser la question, le dépistage du handicap d'Oriane?
Le dépistage, ça a été un peu compliqué. En fait, je pense que le gynécologue qui m'a suivi avait détecté la trisomie 21, mais un peu tard, trop tard. Donc, il ne nous a rien dit. Donc, et puis, ben, à la naissance, évidemment, il n'était pas là, quoi. Donc, et ça a été très dur pour moi parce que on ne me l'a pas dit. On a prévenu mon mari, mais on ne l'avait pas prévenu, moi. Voilà. Et donc, on avait dit, on te préviendra à tel moment. Enfin, ils avaient décidé qu'ils me préviendraient à tel moment. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme c'était prévu. C'est le pédiatre qui m'a annoncé ça dans l'après-midi. Voilà. Et ben, ça a été un choc pour moi. De toute façon, la trisomie, moi, je ne connaissais pas. Hein. Avant la naissance d'Oriane, je savais ce que c'était qu'un enfant, entre guillemets, mongolien. Mais trisomie 21, pour moi, c'était... Je ne savais pas ce que ça se rapportait à ça. Voilà. On apprend, hein, on se documente, on lit, on va voir des associations, etc. Donc, c'est la meilleure chose à faire, hein, parce qu'il ne faut pas rester tout seul, surtout. Hein. Il faut pouvoir en parler et puis voir des gens qui ont déjà de l'expérience par rapport à ça, parce qu'ils peuvent être d'une grande aide, justement, voilà, pour savoir, pour orienter, pour aider aussi et soutenir également.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les caractéristiques de la trisomie 21? Qu'est-ce que ça implique?
La trisomie 21 implique un retard mental déjà, hein, beaucoup de souplesse au niveau des articulations. Hein, on dit qu'ils ont trois chromosomes. On dit trois chromosomes, on devrait être beaucoup plus intelligent que deux, hein, normalement. Mais bon, là, trois, effectivement, c'est une anomalie, donc une anomalie mentale, effectivement. Ça se traduit surtout comme ça, quoi, en fait. Voilà. Mais il y a des degrés quand même dans la trisomie. Il y a des trisomies qui arrivent à se débrouiller très bien. Il y a même des trisomies qui ont passé le bac. Hein. Mmh. Et d'autres, par contre, c'est un peu plus compliqué, voilà.
Alors, l'histoire de la trisomie 21, c'est aussi l'histoire d'une femme, Marthe Gauthier, une chercheuse un peu oubliée de l'histoire. Marthe Gauthier mettra en évidence en mai 1958 le chromosome de la trisomie 21. Ouais. La maladie sera dénommée trisomie 21 en 1960 et confirmera l'anomalie chromosomique, une découverte qui sera attribuée à un homme, Jérôme Lejeune, qui s'est un peu accaparé cette découverte. Alors je vous propose d'écouter Marthe Gauthier elle-même qui explique comment elle a découvert ce chromosome en plus.
D'accord.
Culture cellulaire. Ça marche bien, je fais d'abord des cultures d'embryonnés, mais ça avait déjà été fait en 1913 par d'autres. Enfin, ce n'était pas une révolution aussi importante que ça. Mais il ne fallait pas faire d'erreur de cultiver toujours le même explant, hein, c'est-à-dire les mêmes cellules, pendant plus de 4 mois. Et comme je savais que j'avais toujours 46 chromosomes au bout de 4 mois, je me suis dit « j'y vais ». Et j'ai demandé, à ce moment-là, mes chromosomes, c'était un individu normal, témoin. Hein, j'avais près de chez moi, près du labo. Et puis après, quand j'ai vu qu'au bout de 4 mois, j'avais toujours 46 chromosomes, mais je ne pouvais pas les identifier, c'est-à-dire savoir qui était le grand, je voyais bien qui était le grand ou petit, mais enfin bon. Et donc, à ce moment-là, je dis... pas M. Turpin, parce que je ne le voyais pas bien souvent, mais surtout, il dit, bon, bah, écoutez, maintenant, hein, si vous ne me donnez pas de... J'ai besoin de prélèvement de mongolien, sinon je ne peux rien faire. Donc, à un moment, on me donne, je l'ai marqué là, en 1958, oui, en 1958, un prélèvement de mongolien. Et je m'aperçois qu'il a 47 chromosomes.
Alors voilà, c'était un extrait du témoignage de Marthe Gauthier qui a découvert ce chromosome en plus et dont la découverte a été un peu accaparée par Jérôme Lejeune. On appelle ça l'effet Mathilda, ou comment les femmes à l'origine de découvertes scientifiques deviennent invisibles et ne passent pas à la postérité. Alors dans ce petit extrait, il y a ce terme de mongolien qui était très utilisé encore il y a quelques décennies.
Oui, il n'y a pas si longtemps.
Oui, oui. Et comment est-ce que pour vous, Annick, faire attention aux mots qu'on utilise, c'est aussi quelque chose de vital pour pouvoir sensibiliser le grand public?
Ah oui, oui, absolument. Je pense que mongolien, c'est vraiment péjoratif. J'aime pas du tout ce mot-là. Trisomie 21, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, voilà. Oui. Donc c'est... Oui, je préfère ce mot-là. Ça fait plus scientifique. Voilà.
À votre avis, comment on pourrait proposer un meilleur accompagnement des familles à l'heure actuelle?
Ah, c'est une question difficile, ça. Oui. Comment accompagner au mieux les familles? C'est surtout les mettre en relation, justement, avec des associations. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, à les soutenir et puis bien les encadrer, les diriger justement pour toutes les démarches qu'il y a à faire, parce que c'est assez lourd quand même malgré tout. Ouais. Et justement, il devrait alléger un petit peu tous ces protocoles là, parce que c'est moi je trouve ça très lourd. Moi et puis en plus ce sont des dossiers qu'il faut renouveler tous les 5 ans, vous savez, comme pour tout handicap, il faut renouveler son dossier tous les 5 ans.
Donc vous parlez des dossiers de prise en charge?
Des dossiers de prise en charge au niveau de la MDPH et tout ça. Mais je crois savoir que... Enfin, je ne sais pas si cette loi a été votée, mais justement, en ce qui concerne la trisomie 21, il n'y aurait plus à faire tous les 5 ans ce dossier. Une trisomie, ça reste une trisomie, hein, c'est pas... Ça ne se guérit pas, hein, voilà. Donc, il n'y a aucune raison de renouveler ce dossier tous les 5 ans. Voilà. Et ça, justement, accompagner les parents dans ce sens-là pour leur faciliter les choses dans l'accompagnement au niveau financier, tout ça, pour les parents et pour les personnes, justement, handicapées.
Est-ce que l'avancée en âge entraîne plus de difficultés dans la prise en charge?
Non, non, pas spécialement. Une fois que les démarches sont mises en route une première fois, après ça se fait assez facilement, mais il faut quand même le faire, ce renouvellement tout le temps, donc il faut tout le temps être là.
Voilà. Et je pensais plutôt à la question des personnes trisomiques qui deviennent âgées. Oui. Parce que l'espérance de vie alors je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais a augmenté vraiment considérablement.
Oui.
Et donc, comment sont prises en charge les personnes âgées trisomiques?
Alors, personnellement, je ne suis pas encore confrontée à ce problème-là, mais ça viendra un jour, effectivement. Mais je sais qu'effectivement, les personnes handicapées, elles ont droit à une retraite comme tout individu, surtout quand elles ont travaillé en ESAT. En ESAT, même autrement. Hein, et je pense que c'est un accompagnement, effectivement, qui doit être fait. Quand la personne travaille dans un ESAT ou qu'elle est prise en charge par la DAPI, ça se fait assez facilement parce que ce sont les associations elles-mêmes qui cherchent des places pour les placer en maison de retraite. Hein. Il existe aussi, des associations qui acceptent toutes les personnes comme ça, qui arrivent à l'âge de la retraite, qui se regroupent, quoi, en fait. Hein. Mm-hmm. Et puis... toutes les personnes aussi qui ne peuvent pas travailler, elles sont mises, on les met dans des centres occupationnels, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut penser à toutes ces personnes-là, hein, parce que toutes les personnes handicapées ne peuvent pas travailler. Donc, et puis certaines peuvent s'arrêter plus tôt que prévu. Elles ne peuvent pas aller jusqu'à 60 ans. Ou, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des personnes handicapées qui arrivent. Je pense que oui, quand même. Ouais, qui arrivent jusqu'à l'âge de la retraite. Quoi.
Est-ce que, Oriane, tu as des frères et sœurs ?
J'ai qu'une sœur.
Oui. Et une plus grande sœur ou plus petite ?
Ma petite sœur.
Petite sœur. D'accord. Donc toi, tu as 32 ans. Et elle, quel âge a-t-elle ?
30 ans.
30 ans, d'accord. Est-ce que le fait d'avoir une petite sœur, ça t'a aidé au quotidien ?
Oui.
Et pourquoi, par exemple ?
Elle est cool. Elle est plus cool que d'habitude.
Et je vous propose d'écouter une musique. Est-ce que vous, j'imagine que vous connaissez le film Le Huitième Jour.
Oh, bah absolument, oui. Avec Daniel Auteuil.
C'est ça. Et Pascal Duquesne,
voilà, c'est ça.
Cet acteur. Oui,
oui. Ouais, je viens.
Tu vois, Ryan aussi. C'est un film qui est sorti en 96, un immense succès populaire qui a marqué un tournant dans l'acceptation de ce handicap. Oui. Et donc, on écoute une des musiques du film qui s'appelle Mongolie.
Thank you.
Et nous sommes toujours dans la lorgnette avec Oriane et sa maman. Oriane nous disait qu'il fallait qu'on se dépêche parce qu'elle commence à avoir faim. Et c'est vrai qu'il est bientôt 18h. Il est 17h36 et vous êtes toujours sur Studio ZEF. Ce soir, on parle dans la lorgnette de la trisomie 21. On vient d'écouter la musique du film Le huitième jour. Et puis tout à l'heure, on parlait de l'espérance de vie qui a considérablement augmenté pour les personnes trisomiques. Je n'avais plus le chiffre en tête, mais je me permets de le redire parce que c'est vraiment considérable. Dans les années 80, l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. Donc voilà, il y a quand même du chemin parcouru.
Oui.
Mais ce que je lisais en faisant ces recherches pour cette émission, c'est que avec le dépistage prénatal qui devient presque systématique, alors qu'il n'est pas obligatoire, mais beaucoup de femmes pensent qu'il est systématique, on peut se faire du souci quand, puisqu'il y aura moins de personnes trisomiques qui verront le jour et peut-être que du coup les recherches sur la trisomie en pâtiront du fait...
C'est bien possible ça, oui effectivement. Oui.
Voilà, donc ça c'est un des enjeux sûrement à venir sur la trisomie 21. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Chaque semaine, on vous propose une recommandation d'un livre, d'un film en lien avec le thème de la soirée. Ce soir, je vous propose de découvrir le livre « Triso et alors » paru en 2014. Alors, le livre a été écrit par Éléonore Lalouf. Elle écrit dans ce livre « Pour la trisomie, il faut se battre. On voit les trisomiques comme des phénomènes. Ceux qui se moquent de moi, je les ignore. Point. C'est comme ça que je ressens les choses en tant que triso. Il faut se dire, j'ai plus de chromosomes qu'eux. » Les parents d'Éléonore se sont toujours battus pour qu'elle soit scolarisée en milieu ordinaire. Elle se souvient des moqueries dans la cour de récré quand elle était en classe spécialisée au collège. On me regardait un peu de travers, un peu méchamment. Dans le car, les grands m'ont mis du chewing-gum dans les cheveux, au moins deux fois, témoigne-t-elle. Aujourd'hui, elle s'attire encore parfois des regards insistants quand elle prend le bus pour aller au travail au service facturation de l'hôpital privé d'Arras, où elle a un CDI. « Je les ignore, dit-elle, je suis comme les autres, je peux être indépendante et avoir une vie normale. » Donc voilà, je vous recommande ce livre qui s'appelle « Triso et alors » et qui est très très beau à lire, c'est un hymne à la vie et au droit à la différence. Mmh. Et vous Annick, vous aviez une idée de film, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Ah, on avait vu il y a pas très longtemps justement qui est passé à la télévision, ces mentions particulières d'une jeune fille trisomique justement qui passe son bac dans le premier volet et elle a du mal aussi à se faire reconnaître par ses professeurs, par les et surtout au niveau pour passer l'examen, voilà. Et elle réussit à adopter un petit peu tout le monde, quoi, en fait, même les élèves qui sont avec elle dans sa classe et tout ça. Enfin, ouais, c'est vraiment charmant. Et le deuxième volet, c'est justement, elle veut devenir journaliste et elle fait un stage dans un journal et on lui fait faire que des photocopies. Et là, elle se rebelle un petit peu parce que c'est vraiment pas sa tasse de thé. Elle aspire à autre chose, justement. Donc voilà, comme tous les autres, voilà. Mais il faut dire que ces cas particuliers-là, c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus maintenant des trisomiques qui arrivent à se faire une petite place comme ça dans le monde du travail, mais ça reste encore marginal, hein, malgré tout. C'est ce que j'aurais souhaité pour ma fille, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le souhaiterait, quoi, en fait. Il n'évolue pas toujours comme on le souhaite, comme on le voudrait, quoi. Ouais, voilà. Et puis, il faut trouver aussi, pour l'évolution des enfants, justement, pour qu'ils puissent s'intégrer comme ça dans les classes ordinaires, il faut vraiment se battre, effectivement. Il faut se battre pour leur trouver des places, pour qu'ils soient acceptés, par le corps enseignant et tout ça. C'est vrai que je me mets à la place d'enseignant. C'est vrai que ce n'est pas facile d'accepter des enfants comme ça dans une classe. Mais il faut se battre, quoi, tout le temps.
L'inclusion,
ouais,
pour plus
ouais, d'inclusion. Oui, pour l'inclusion, oui. Voilà.
Oriane, est-ce que tu peux... là, tu vas rentrer au foyer à Blois-Vienne.
Oui.
Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vas faire ce soir?
Je prends ma douche.
Oui.
faire le ménage de ma chambre.
Et qu'est-ce que tu vas manger de bon?
Ça peut être dégueulasse.
La cuisine n'est pas trop ton...
Non, je sais pas trop de cuisine.
D'accord. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Oriane? Est-ce que tu as envie de soit dire quelque chose ou si tu veux relire aussi le texte que tu as lu au début, tu peux aussi.
Je peux?
Oui, bien sûr. Oui.
Tout?
Comme tu veux.
Je m'appelle Oriane Marker, 32 ans. Je travaille à les aides de la chaussée Salvatore tous les jours. Je vis dans un appartement avec mes amis. J'aime faire du sport, l'aquagym, la fitness, chanter et danser. J'aime regarder des films. Je sais faire à manger et m'occuper de moi toute seule. J'ai un handicap, je le respecte. Tout le monde, et je veux être respectée. J'aimerais avoir un appartement pour moi toute seule. J'aime bien envie d'attacher mes parents. J'aimerais plus autonome, avec un par mois chez mes parents. Et un jour, peut-être, je vais me marier.
Est-ce que tu as un amoureux d'ailleurs? Tu parles du mariage, mais...
Oui. Oh. J'ai un amoureux, j'en ai deux, mais... On n'est plus ensemble.
D'accord. Faudrait que tu choisisses pour le mariage.
Ouais.
Annick, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Je ne sais pas trop, en fait. Je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette un petit peu. Hein. Les associations, les parents, le monde du travail, le monde de l'éducation aussi. Donc, pour accepter tous ces enfants... Dans les classes ordinaires pour qu'ils puissent évoluer un petit peu comme tout le monde. Voilà.
J'aimerais
et qu'ils
bien.
Évoluent dans le monde du travail, dans l'éducation nationale, comme tout le monde. Voilà.
Est-ce que toi, Oriane, tu as été à l'école en inclusion, en milieu ordinaire?
Oui.
Et qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir?
De la compassion. J'ai des souvenirs que j'étais sur ordinateur.
Oui.
J'ai souvenir de Salbris et toutes mes amies qui font mon départ.
Oui.
Et puis c'est tout.
Oui, Oriane a été dans des écoles inclusives jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle est rentrée en IME à l'âge de 16 ans. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, ou 20 ans, elle a intégré après les AT. Voilà. Et c'est vrai que l'inclusion, c'est formidable pour ces enfants-là. Ils sont dans le monde ordinaire. Ils sont un petit noyau dans une école ordinaire. Et ça leur apporte beaucoup, énormément même. Voilà.
J'aimerais les sortir à Portugal un jour.
Au Portugal?
Oui.
Et pourquoi le Portugal?
Parce que ça me plaît.
Donc c'est ton rêve?
C'est mon rêve.
Un de tes rêves?
Oui.
Est-ce qu'il y a déjà des rêves que tu as réalisés?
Que je suis déjà mariée.
Des choses que tu as déjà faites ou tu t'es dit...
Oui.
Ah, ça... Eh bien, écoute, on espère que ton rêve pourra se réaliser au Portugal.
Oui.
Eh bien, merci à toutes les deux, en tout cas pour votre témoignage ce soir.
Ben, merci si j'ai pu apporter quelque chose, un petit quelque chose pour le monde du handicap, eh ben, j'en suis enchantée.
Oui, bien voilà. Sûr. On parlait de la trisomie 21 parce que c'était le 21 mars, la journée de la trisomie. Mmh. Et puis, vous pouvez aller au jardin de l'Évêché voir ces belles chaussettes dépareillées qui célèbrent cette journée et ce handicap. Oriane, tu veux rajouter quelque chose?
Non.
Non? Eh bien, allez, c'est parti. On arrête là. On va aller manger.
Merci. Bonsoir. Et puis, on va aller voir la ronde des chaussettes.
Oui. Merci à toutes les deux.
Voilà, merci. Bonne soirée à tous.
Au revoir.
Je ne veux plus entendre parler de la lorgnette. Je ne veux plus voir une seule lorgnette de ma vie.
You look so good.
Et on termine cette lorgnette par l'agenda du week-end. Ce soir, c'est Sarah McCoy qui est en concert au Lobis à 21h. Sarah McCoy est une musicienne américaine de blues, jazz et soul, née en 85 dans l'état de New York. Tout droit devenue de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, elle s'est ensuite installée à Paris en octobre 2017 où elle a entamé sa carrière musicale professionnelle. Sa puissance vocale frappe les esprits. Elle est ce soir au Lobby, alors ne la ratez pas. Et puis toujours côté musique, ce week-end a lieu le festival The Outbreak au Château d'Eau. Et les bénévoles de Studio Zef seront en direct demain après-midi en plateau mobile à partir de 16h. Ce sera une émission spéciale de Core & Co, l'émission de métal. La soirée de ce soir malheureusement a été annulée, mais demain c'est bien toujours Gorod, Déluge et Point Mort qui sont au programme de The Outbreak. Et durant ces deux jours de festival, vous pouvez aussi découvrir l'exposition « L'Europe du Nord et le métal, une histoire commune » au Château d'Eau. Samedi soir, place à la musique américaine à la Halograin, avec le duo formé par la grande cantatrice Nathalie Dessay et le pianiste Jean-Philippe Collard-Neven. Dans leurs mains virtuoses, venez découvrir des standards américains signés Duke Ellington ou Irving Berlin. Et puis place au théâtre, à l'Alep, à l'Espace Guinière, car c'est la 13e édition ce week-end de Festea, le festival de théâtre amateur de l'Alep. Une pièce de théâtre est au tarif de 6€ et le pass pour la journée de samedi est à 10€. Ce vendredi, ce soir à 20h30, venez découvrir Musée au Musée Bas de Jean-Michel Ribe par la troupe de l'Escapade Théâtre. Demain à 15h aura lieu une représentation du baptême chacaliste d'Abdelatif Lahabi par la compagnie Tranarossan. À 18h, venez découvrir Pourvu qu'il pleuve de Sonia Ristik par la compagnie L'Entracte. À 21h, un dernier spectacle, Un temps de chien de Brigitte Buc de la troupe Les C'est-à-dire. Et puis dimanche, deux représentations, l'une à 11h, Le secret de Mathieu Savignac par la compagnie du Chêne Sacré et à 14h, Les mains sales de Jean-Paul Sartre par la compagnie Maléluca. Tout ça, toutes ces pièces sont à découvrir à l'Alep, à l'Espace Guinière. Merci beaucoup pour votre écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lorgnette et on se quitte et vous allez bientôt entendre les garçons de la Redeem Station qui seront en direct depuis le bar du Saint-Lubin. Bonne soirée à tous et à toutes et puis pour finir, on écoute Sarah McCoy. Bonne soirée.
If I could catch you like a fish, if I could weave a web of time, I would catch you in a moment now, and in that moment for forever you'd be mine. Well, I would hunt you like a wolf. I would stalk you through the night. I'd be hiding in a shadow now, where you can't see me until the moment is just right. I would be your boogeyman, hiding underneath your bed. Well, now I would watch you sleeping, yeah, lovely dreaming. I would hold your hand. I would be your boogeyman. Yes, I would be your boogeyman. I like to trap you, track you, bait you. I would find you and sedate you. I'd tag you, I'd cage you. Then I'd rename you, but you in captivity. is too heartbreaking for me. I'd like to trap you and track you and keep you, but I'll catch you and release you because I can. Because I care. Because I care.